Attention pour le décompte final.
3. Espace. Frontière de l'infini.
Le temps, l'espace et la matière.
Décollage.
L'actualité spatiale pour ce dimanche sur France Bleu Occitanie, c'est avec Olivier Sanguy de la Cité de l'Espace. Olivier, bonjour.
Bonjour.
Nous allons remonter dans le lointain passé. Nous sommes en 1977, en septembre 77, date à laquelle va partir de la Terre Voyager 1. Et Voyager 1 est aujourd'hui toujours opérationnel. Alors, c'est une façon de parler parce que aujourd'hui on ne comprend plus Voyager 1, c'est un peu en panne, on en a déjà parlé dans cette chronique. Seulement, si nous en reparlons aujourd'hui, Olivier, c'est parce qu'il y aurait des bonnes nouvelles.
Oui, un espoir technique de réparer Voyager 1. Alors, on va revenir sur ce problème technique, c'est-à-dire qu'un jour, les ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory, qui est un centre de la NASA en Californie, ont reçu une suite de 0 et de 1 qui n'avait aucun sens. 0 et 1, hein, c'est code binaire. Bon, donc ils se sont dit, qu'est-ce qu'il se passe? Et là, ils ont compris que c'était le FDS, Flight Data Subsystem, de son joli nom. En gros, c'est dans Voyager 1, un dispositif qui prépare les données sous forme de 0 et de 1, qui les met dans l'ordre pour les envoyer par transmission radio, on va y revenir après, vers la Terre. Et c'est là que ça ne fonctionne plus, tout est dans le désordre et donc on ne peut plus rien interpréter. Alors, il ne laisse pas tomber comme ça, hein, parce que Voyager 1, c'est une sonde unique. Il faut savoir que depuis 2012, on estime qu'elle a passé une des grandes frontières du système solaire. En gros, elle est en dehors de l'influence du Soleil, c'est-à-dire que cette sonde est plus sous l'influence des autres étoiles que du Soleil. Donc, il faut absolument sauver cette sonde pour continuer à recevoir des données scientifiques. Donc, ils ont envoyé une petite série d'instructions. Et le FDS a lu sa mémoire. Et quand ils ont reçu les données, elles semblaient complètement, on va dire, pas bonne, sauf qu'en regardant bien, ils se sont rendus compte que c'était la lecture de la mémoire du fameux Flight Data Subsystem. Alors attention, ça ne s'est pas fait tout de suite. Ils ont reçu ça le 3 mars. Ils ont commencé à décoder le 7 et le 10, ils ont compris. Mais ils se disent que s'ils peuvent comparer cette mémoire à celle d'avant, dont ils ont les traces, ils peuvent comprendre ce qu'il s'est passé.
Pour qu'on ait, parce qu'il y a des chiffres qui sont quand même assez impressionnants, moi quand j'appuie sur un bouton de mon ordinateur, ça agit en quelques millisecondes. Pour Voyager, c'est un poil plus long.
C'est un poil plus compliqué, en effet, vous avez raison. Alors Voyager 1 actuellement est à 24 milliards de kilomètres de la Terre. Ce qui veut dire que le signal radio qu'on lui envoie, à la vitesse de la lumière, met 22 heures et demie. Voyager 1 suit l'instruction, il répond, 22h30 aussi. Mais Voyager 1 émet à 23 watts, c'est la puissance du signal radio, vous connaissez ça mieux que moi. Mais surtout quand ça arrive sur Terre, vu qu'il est à 24 milliards de kilomètres, c'est un milliardième d'un milliardième de watts. C'est pour ça qu'il faut des grandes antennes de 30 à 70 mètres pour l'écouter.
Qu'est-ce qu'on apprend avec Voyager aujourd'hui?
Eh bien Voyager, 1 comme 2 d'ailleurs, sont les seules sondes qui sont aussi loin et qui donc font des mesures, alors il n'y a plus de photos, hein, c'est des mesures pointues, on mesure le plasma, ce genre de choses, qui font des mesures en dehors de l'influence dominante du Soleil. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, depuis maintenant quelques années, on a des mesures concrètes sur le milieu interstellaire.
Merci Olivier Sanguy de la Cité de l'Espace. On se retrouve samedi et dimanche prochain. Bonne fin de week-end.
Bonne fin de week-end à tous et au week-end prochain.